Analyse avec Dr. Maryse Gay, les médecins spécialistes en santé publique, professeur au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et aussi membre du comité sur l'immunisation du Québec. Dr. Gay, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lacasté.
Bon, vous avez écouté le point de presse. Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Ben, c'est l'enthousiasme. On a parlé de ciel, le ciel qui se dégage. C'était vraiment intéressant et bon. Cet enthousiasme-là est vraiment aussi communicatif. Donc, on est vraiment content de ce qui est annoncé.
Parfait. La stratégie d'élargir les groupes d'âge aux 48 heures, vous en pensez quoi?
Bien, ça correspond aux capacités qui ont été testées jusqu'à maintenant. Donc, d'après ce que je comprends, c'est possible d'y arriver. Il faut aussi considérer que, bon, il y a les capacités informatiques, il y a les capacités aussi de répondre de ces rendez-vous-là. Donc, ça me semble logique et adéquat. J'imagine qu'avec le temps, si jamais on voit que ça fonctionne pas bien, on pourra peut-être ralentir, mais c'est vraiment je ne veux pas minimiser la situation, mais ça semble plutôt des technicalités, plutôt informatiques. Si les vaccins sont au rendez-vous, et l'organisation est disponible, donc si les vaccins sont au rendez-vous, je pense qu'on va y arriver. L'idée, c'est de prendre les rendez-vous aux 48 heures, mais le rendez-vous lui-même, le jour de vaccination, ça va être étalé sur une plus grande période, là, d'ici à ce qu'on y arrive au 24 juin, j'imagine. Là.
OK. Là, il y a quelque temps, j'ai parlé à une chercheuse en psychologie qui nous disait, écoutez, c'est bien beau de cibler les gens qui sont récalcitrants, qui sont délinquants, pour toutes sortes de mesures sanitaires, dont la vaccination. Mais il faut aussi y aller avec le positif. Il faut faire du renforcement positif. Là, maintenant qu'on élargit à la population générale, Dr. Gay, est-ce que ça risque d'avoir un effet d'entraînement, vous pensez, chez ceux qui avaient peut-être des hésitations?
Mais on sait que la norme sociale, entre guillemets, c'est un facteur qui améliore les couvertures vaccinales. Donc, quand on voit que tout le monde est vacciné. Puis aussi, si vous vous souvenez, quand on a commencé à vacciner à la fin de 2020, puis au début de 2021, il y avait des gens qui étaient réticents. Ils disaient, bon, ben, c'est de la nouvelle technologie, on ne sait pas trop ce qui arrive. Puis on a vu que ça fonctionne. On a réussi à contrôler les complications de la COVID, les décès chez les personnes plus âgées. Donc, tous ces facteurs-là. Puis aussi, il y a toute la vaccination qui se fait à l'échelle planétaire et on voit les effets que les gens sont vaccinés, puis ça fonctionne. Donc, tous ces aspects-là font en sorte que des gens qui sont hésitants parce qu'ils savent pas trop, donc il y a certaines catégories de gens hésitants qui vont être encouragés parce qu'on voit du fait que tout le monde est vacciné. Et vraiment, c'est un facteur positif. Bon, il faut quand même pas nier qu'il y a des personnes qui sont complètement négatives et qui ne veulent absolument rien savoir de la vaccination. Et ces gens-là, bon, peu importe, ne seront pas convaincus par de tels... du fait que bien des gens sont vaccinés. Mais la plupart des gens comprennent la situation. Et comme on veut tous s'en sortir, on veut être capable de reprendre notre vie d'avant, bien, on sait que ça doit passer par la vaccination.
Le gouvernement jongle avec des scénarios de vaccination des adolescents, notamment là, les 16-18. Dr. Gay, qu'est-ce qu'on sait sur l'effet des vaccins, sur la science des vaccins du coronavirus sur les moins de 18 ans?
Bon, il y a eu très peu de personnes plus jeunes qui ont été incluses dans les essais cliniques, donc dans les études qui ont été faites sur les vaccins contre la COVID. Il y en a eu quelques-uns dans certains essais cliniques, mais d'après ce qu'on comprend, il y a quand même une bonne réponse immunitaire. Ce qui a fait en sorte qu'on vaccine moins, bien, ou ces personnes-là ne sont pas incluses, c'est qu'elles sont moins aussi à risque des complications et des problèmes avec la COVID, bien qu'il y ait quand même des cas, quelques cas, mais il y en a quand même peu. Par contre, présentement, il y a des essais cliniques qui se font chez les personnes plus jeunes avec les vaccins à ARN messager, entre autres. Donc, d'ici à ce qu'on puisse vacciner les personnes plus jeunes ou qu'on soit rendu à ces groupes-là, bien, on peut espérer qu'on aura des données qui vont nous donner des indications sur le bien fondé de vacciner ces personnes. Mais en toute logique et de manière théorique, il n'y aura pas de raison de croire que les vaccins à ARN messager, entre autres, ne fonctionnent pas là, chez les personnes plus jeunes.
OK. Dr. Gay, là, la vaccination va s'ouvrir à la population générale. Ça va faire des centaines d'autres personnes qui vont avoir des effets secondaires assez léger, je peux en témoigner, des vaccins. Dites à ces gens-là qui vont aller se faire vacciner, à quoi ils peuvent s'attendre en termes d'effets secondaires?
Bon, en général, ce qu'on rencontre, c'est des malaises au niveau du site où est-ce qu'on a été piqué. Donc, des douleurs dans le bras, douleurs, rougeurs. Bon, on a de la misère à bouger le bras. Mais ça dure quand même, même si c'est fréquent, ça ne dure pas longtemps, là, une journée ou deux. Il peut arriver aussi que certaines personnes vont avoir des symptômes qu'on appelle des symptômes systémiques. Donc, se sentir un peu moche, fiévreux, avoir un peu mal partout, des courbatures. Mais encore là, ces symptômes sont quand même peu fréquents et durent peu de temps. Bon, là, on parle des vaccins à ARN messager. Pour les vaccins à vecteur viral, c'est à peu près le même tableau, mais il faut aussi comprendre toute la question du syndrome là, qui est relié aux thromboses. Et ça, c'est un autre problème. Et vraiment, ça, si jamais les personnes présentent des symptômes qui surviennent plus tardivement, donc après 4-5 jours après la vaccination jusqu'à à peu près 2 semaines, c'est des douleurs très importantes, donc des gros maux de tête, des difficultés à respirer, des douleurs dans les jambes, des gros maux de ventre. Mais là, il faut vraiment les consulter parce que ça peut être, c'est pas certain, mais ça peut être le phénomène qui est quand même rare chez une personne sur 100 000 qui reçoit les vaccins à vecteur viral actuellement.
Si je résume, tant que ça ressemble à une grippe ou à des symptômes grippaux, on est correct.
Oui, on ne s'inquiète pas. Par contre, il ne faut pas confondre aussi que parfois, on peut être malchanceux puis attraper la COVID malgré tout. Donc, si c'est des symptômes qui semblent pas vraiment partir ou qui sont plus inquiétants, ben il faut consulter parce que c'est possible d'avoir la COVID même entre le moment où on est vacciné puis le moment où le vaccin assure une protection, il peut avoir à peu près 2 semaines. Donc, dans cette période-là, puis même si on est en incubation, c'est-à-dire si on a attrapé le virus quelques jours avant d'avoir le vaccin, puis que les symptômes sortent au moment où on est vacciné, ben ça peut être la COVID. Alors, il faut faire attention et il faut, si on fait une fièvre importante, et des difficultés respiratoires, entre autres, puis si on perd l'odorat aussi, ça c'est un symptôme qui est vraiment très, très, très caractéristique de la COVID. Donc là, il faut consulter. Alors, il faut surveiller ces symptômes et si ça disparaît rapidement, là, c'est vraiment pas moins de chances que ce soit la COVID.
Dernière question, quelqu'un m'écrit sur la messagerie pour me demander à Dr Guy si elle se ferait vacciner enceinte.
Eh bon sang. Ben moi, j'ai dépassé cet âge-là. Mais c'est vraiment une question personnelle. Là. Les risques sont théoriques. On a peu de recul. Les essais cliniques, les femmes enceintes n'étaient pas incluses dans les essais cliniques. Par contre, on sait qu'un vaccin qui n'est pas un vaccin vivant. Bon, puis quand on parle d'un vaccin vivant, c'est un vaccin comme le vaccin contre la rougeole ou la rubéole. Bon, donc les vaccins qui ne sont pas vivants ne causent pas de problème chez les femmes enceintes. Ce qui peut amener de la confusion par rapport à la grossesse, c'est que c'est un état où il y a des malformations congénitales qui peuvent arriver et qui ne sont pas en lien avec. On ne connaît pas la cause. Donc, à peu près 3% des grossesses qui se soldent avec malheureusement, l'enfant qui naît a des problèmes, une malformation quelconque. Et puis là, c'est facile de dire, si jamais la personne aura reçu le vaccin, ce sera facile de dire que c'est le vaccin qui est en cause alors qu'on ne le sait pas. Mais avec le recul qu'on a, même si on n'a un recul relativement pas très long, là, parce que on sait qu'aux États-Unis, il y a des femmes enceintes qui ont été vaccinées et les issues de grossesse étaient adéquates. Donc, avec le recul, on se dit, il y a un risque théorique, comme je vous disais, avec les malformations congénitales, mais si on pense que les femmes enceintes peuvent être à risque, et particulièrement les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques, comme les femmes enceintes qui ont déjà un diabète ou d'autres problèmes de santé chronique, elles sont déjà plus à risque de complications de la COVID.
Très bien.
Et on sait aussi, juste rapidement, il y a des travailleuses de la santé, par exemple, des femmes médecins qui ne pouvaient pas ne pas être exposées au début, en janvier, février, et qui ont été vaccinées, et ça a bien été. Donc, tout ça pour dire que, moi, je ne serais pas enceinte à court terme, mais si j'avais à conseiller ma fille ou de la famille, je pense que ce serait une bonne idée.
Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Dr Guy.
OK, je vous en prie. Au revoir.
Salut, bonne journée. C'était Dr Maryse Guy.